Chapitre 31. À propos d'un sermon sur la Vierge. Le 15 août 1850, l'évêque de Montréal me demanda de prêcher dans la cathédrale sur la confiance que nous devons avoir dans l'intercession de la Sainte Vierge. J'étais sincèrement dévoué au culte de Marie et rien ne me semblait plus raisonnable que de lui adresser mes prières et d'espérer tout de sa protection. Je montrais que Jésus-Christ ne peut rien refuser à sa mère, qu'elle a toujours obtenu les faveurs qu'elle a demandées et que notre intérêt, comme notre devoir, était de nous adresser à elle dans tous nos besoins. Comme de raison, mon discours était plutôt sentimental que scripturaire et il ne peut en être autrement pour les prêtres de Rome. Il me fut impossible de prendre aucun repos pendant cette terrible nuit. Lorsque l'heure du déjeuner arriva, je me trouvai seul à table avec l'évêque-prince qui me dit « Qu'avez-vous donc? Êtes-vous malade? Vous avez les yeux et la figure d'un homme qui aurait passé la nuit dans les larmes. » « Votre grandeur ne se trompe pas, » répondis-je. « Me serait-il permis de connaître la cause de votre douleur ?»« Oui, monseigneur, vous pouvez. Vous devez même en savoir la cause. Mais ayez la bonté de me permettre d'aller seul avec vous dans votre chambre pour révéler à votre grandeur les pénibles choses qui pèsent sur mon cœur. » L'évêque-prince, alors coadjuteur de l'évêque de Montréal, nommé plus tard évêque de Saint-Hyacinthe, où il mourut en 1860, après avoir passé ses 3 dernières années dans une folie complète, avait été un de mes amis les plus intimes depuis mes premières années d'études à Nicolet, où il était professeur de belles lettres. Il m'avait donné les marques d'un sincère intérêt dans mes travaux de tempérance. « Monseigneur, lui dis-je lorsque je fus seul avec lui, je vous remercie de la bonté que vous avez de me permettre de vous ouvrir mon cœur. Je viens de passer une des plus terribles nuits de ma vie. J'ai été assailli par des doutes sur la foi comme je n'en ai jamais eu. Votre grandeur n'a pas oublié, sans doute, les félicitations qu'elle me donna hier au sujet de mon sermon. Mais cette nuit, ma raison troublée et peut-être en délire m'a tenu un langage bien différent. Ma joie d'hier a été subitement changée en une profonde tristesse. Vous me félicitiez hier d'avoir si bien démontré que Jésus-Christ n'avait jamais refusé aucune des faveurs que la Sainte Vierge lui avait demandées. Mais cette nuit, il est arrivé à ma pensée que cette doctrine n'est qu'un mensonge blasphématoire. Et ce sont des textes bien clairs, des Saintes Écritures, qui m'ont convaincu que vous et moi, ainsi que notre Église tout entière, nous parlons contre la vérité et faisons fausse route chaque fois que nous prêchons cette doctrine. Ces paroles tombèrent sur le pauvre évêque comme un coup de foudre. J'espère que vous n'avez pas succombé à ces affreuses tentations et que vous ne finirez pas par être protestant, « comme vos ennemis se le disent à l'oreille, » dit-il, d'une voix troublée. « J'espère, Monseigneur, que le bon Dieu me conservera, jusqu'à la fin de mes jours, fidèle à notre Sainte Église. Je ne puis cependant vous cacher que ma foi a reçu cette nuit un terrible choc. Comme évêque, vous avez une mesure de lumière et de grâce que je n'ai pas. Je vous conjure donc, en ce pénible moment, de me donner quelques-unes de ces lumières pour remplacer celles qui menacent de s'éteindre en moi. Au nom du ciel, « empêchez-moi de descendre plus bas dans l'abîme qui vient de se creuser sous mes pas. Votre grandeur m'a félicité d'avoir démontré si clairement comment la Sainte Vierge avait toujours obtenu les grâces qu'elle avait demandées à son Fils. Je vous prie donc de me dire comment vous réconciliez cette doctrine avec les paroles que nous trouvons dans les 6 derniers versets du chapitre 12 de Saint Matthieu. » En disant ces mots, je passai le livre de l'Évangile à l'évêque en le priant de lire tout haut ces textes, il les lut. « Eh bien, que désirez-vous de moi à présent ? Ce que je demande respectueusement à votre grandeur, c'est de me dire comment vous réconciliez la doctrine que nous prêchons avec les paroles de l'Évangile qui nous disent si clairement que Jésus-Christ, après qu'il eut cessé d'être enfant, a toujours refusé d'accorder les grâces que sa Sainte Mère lui demandait. » Cette question si simple déconcerta absolument le pauvre évêque. Il me fit vraiment pitié par ses réponses. Il ne faisait que bégayer, commençant une phrase sans pouvoir la finir, essayant d'un argument pour le laisser à moitié chemin. Il était bien évident qu'il n'avait jamais lu ces textes avec attention, comme j'avais fait moi-même jusqu'alors et comme font tous les prêtres de Rome. Enfin, il prétexta une affaire pressante et, en me renvoyant, me conseilla de lire les Saints-Pères. Ma tristesse et mon angoisse ne peuvent se décrire. Je me raccrochais cependant à l'espoir que l'étude des Saints-Pères me donnerait les explications dont j'avais besoin pour ressaisir la foi qui m'échappait et j'allai immédiatement chez le premier libraire de Montréal, M. Fabre, père du présent évêque de cette ville, le prier de me faire venir de France l'édition des Saints-Pères par l'abbé Migne. 4 mois plus tard, ce trésor de littérature sacrée était entre mes mains et je l'étudiais avec une incroyable avidité, cherchant à me convaincre que les Saints-Pères avaient eux aussi prêché que la Sainte Vierge est la source de toutes les grâces qui nous viennent du ciel, que Jésus-Christ ne lui avait jamais refusé aucune des faveurs qu'elle a demandées et que le plus sûr moyen d'être sauvé est de s'adresser à elle. Mais quelle ne fut pas ma surprise, ma désolation et ma honte de découvrir que toutes ces pages si éloquentes, prétendues écrites par les Saints-Pères en faveur du pouvoir et du culte de la Sainte Vierge, ne sont que des impostures et des mensonges écrits souvent bien des siècles après la mort de ces Saints-Pères et publiés imprudemment sous leur nom. Lorsque j'eus découvert ces impostures, dont mon Église s'était rendue coupable depuis tant de siècles, combien de fois, au milieu des heures silencieuses de la nuit, consacrées à l'étude et à la prière, j'entendis la voix de ma conscience me crier « Sors de Babylone !» Mais où aller ? Comment me sauver hors de cette Église qui me semblait la seule arche de salut pour le genre humain ? Je voyais clairement qu'il y avait de déplorables abus, des erreurs formidables dans ma chère Église de Rome. Mais je me demandais où était l'Église sans tache et sans erreur.